Fabio Sinacori, bonjour.
Bonjour, bonjour.
On se retrouve donc pour la présentation de cette nouvelle saison et aussi présenter un petit peu en quoi l'Orchestre National de Lille travaille à mieux faire connaître des œuvres et peut-être aiguiser la sensibilité des publics.
Oui, certainement. Je crois que c'est une des missions d'un orchestre, surtout d'un orchestre du XXIe siècle, d'ouvrir un peu le répertoire et de faire connaître un maximum de compositeurs d'esthétiques différentes.
Alors c'est vrai qu'il y a un fil rouge cette année sur Sibelius, peut-être qu'on peut en dire quelques mots.
Oui, Sibelius est un fil rouge, c'est la dernière saison d'Alexandre Bloch en tant que directeur musical, et il voulait faire un autre type de travail avec les musiciens de l'orchestre. Et Sibelius donne cette possibilité au directeur musical de s'approprier d'un côté structurant de la musique de Sibelius, peut-être grand compositeur romantique fin 19e, début 20e évidemment. Et je crois que la musique de Sibelius donne cette possibilité d'un travail en profondeur, surtout avec les cordes. Et il avait vraiment envie de faire ça, Alexandre, surtout après l'Odyssée des symphonies de Mahler, de se donner un autre défi. On ne va pas jouer toutes les symphonies, mais on va en jouer trois quand même, 2, 5 et 7, pour donner en plus cette temporalité. La deuxième, encore un peu classique, encore romantique. La cinquième, déjà, il s'approche du plafond de verre. Et la septième, là, il le touche, le plafond de verre, il n'ira pas plus loin. Et la septième, en plus, c'est une symphonie un peu particulière, en un seul mouvement, où tous les mouvements sont presque implosés en un. Il les a pressé un maximum, donc il est arrivé au bout et il ne veut pas aller plus loin. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, hein, Sibelius a arrêté de composer assez tôt, et pendant 30 ans, il n'a rien composé. Et il n'a pas voulu, en fait, je crois. Enfin, on ne lui a pas demandé. Enfin, sûrement, on lui a demandé, mais il n'a jamais répondu, ça c'est sûr. Et donc, il y aura évidemment, dans les Sibelius, il y aura le seul concerto qu'il a composé, qui est là, pour le coup, super connu, c'est le concerto de Sibelius pour violon. On ne pouvait pas rater la valse triste, évidemment, de Sibelius, que tout le monde joue. Et alors, il y aura une petite surprise, mais je ne peux pas vous dire laquelle. Il y aura une autre pièce de Sibelius que vous allez découvrir plus tard dans la saison. Et voilà, donc c'est un compositeur assez particulier, atypique, très finlandais, mais sa langue maternelle était le suédois. Et la Finlande, un pays spécial dans l'histoire, 200 ans sous patronat suédois, et juste après, 100 ans sous les Russes. Mmh. Et donc lui, il a beaucoup, surtout dans les premières symphonies, cette influence Tchaïkovski et tout ça. Donc, c'est très fort. On sent beaucoup de la cinquième symphonie dans cette deuxième symphonie de Sibelius et même de la sixième, la pathétique. Et après, il se détache, il évolue. Et je crois que c'est toujours... Moi, j'aime bien regarder les dates, j'aime bien les chiffres. Et un an avant sa naissance, c'est Strauss qui est né. Et la même année, il y a, je crois que c'est Nielsen, Glazunov, Mahler est né juste quelques années avant, 3-4 ans avant lui. Donc, c'est quand même, il est bien entouré, disons. Hein, et...
Donc, c'est vrai que dans le pays où il vivait, hein, je pense, on ressent une âme particulière qui n'a rien de latine.
Pas du tout. Alors non, pas du tout. C'est plutôt slave, très slave. Et... je me suis plongé dans plein de livres, des podcasts autour de Sibelius, parce que je trouve ça toujours très important de s'identifier, de chercher. Hein. Et en fait, notre ami Sibelius, il y a vraiment deux pans de ça dans ses compositions. Vous avez les grandes symphonies, donc les grands... moi, je dis tout souvent, c'est un compositeur écologique presque. On entend dans ses symphonies ce côté nature et tout ça. On les voit, les fjords, on les sent, on les entend, on voit les grands pins. Voilà, on est vraiment dans la nature. Hein. 2.0, maintenant, ça nous semble un peu bizarre, mais à l'époque, ça devait être vraiment assez renouveau. Mais vous avez tout un côté qu'on n'aura pas chez nous, mais vous avez tout un côté de la grande mythologie. La mythologie du Nord, vous avez les grands poèmes symphoniques qui font très important pour lui. Il fait partie, il n'y a rien à faire, de cette lignée aussi de compositeurs nationalistes. À cette époque, c'est fin du 19e et tout ça, c'est ça en fait. Hein. Et on le ressent terriblement dans sa musique. Et je crois qu'il y a ce côté-là qui est intéressant, mais il y a aussi le côté au niveau musical, simplement technique, structure, un peu comme des cathédrales comme ça. Et c'est aussi qu'Alexandre Bloch veut aussi développer avec les musiciens pour nourrir aussi cette facette de l'esthétique du compositeur par rapport aux musiciens de l'orchestre.
Alors si on le compare à Dvorak par exemple, puisqu'il y a une actualité hein, par rapport à ça, on va peut-être la présenter aussi, puis voir un petit peu, je sais pas s'il y a des relations de l'un à l'autre, ou vraiment si on est dans une autre esthétique et un autre esprit, Dvorak.
On est quand même dans un autre esprit. Ce n'est pas... Moi, je ne ressens pas... Pour moi, c'est deux compositeurs qui ont vécu en plus ou moins la même période, hein, de toute façon, mais qui ont eu des vies différentes. D'ailleurs, Dvorak a composé jusqu'à très tard, hein, et sa dernière symphonie était... c'est le tube des tubes, évidemment. Et reste une musique très slave, très nationaliste, évidemment, hein, très tchèque, bien qu'avec plein de thèmes américains, évidemment, parce qu'il a été là-bas, il était bien. Mais même dans la 8e et la 7e, vous entendez parfois des thèmes un peu hein, américains qui viennent un peu. Hein. Mais une chose est certaine, ce sont des compositeurs qui sont à la base quand même très romantiques, qui ont cette fibre romantique qui reste quand même de la musique entre guillemets, je dis bien entre guillemets tonale. J'aime pas du tout ce mot parce que je trouve que c'est tout à fait galvaudé dans la façon dont on l'utilise, mais enfin c'est une musique très accessible de toute façon. Mais Sibelius va beaucoup plus loin pour moi. Il va beaucoup plus loin au niveau de la structure surtout et de l'écriture. D'ailleurs, Dvorak termine avec une grande symphonie, très grande, grand effectif. Mais pas du tout Sibelius. Sibelius reste toujours avec les bois par deux, un petit effectif, et c'est une symphonie qui fait 25 minutes sans pause. Donc le process est très différent, mais ce n'est pas parce que est différent que j'aime l'un ou l'autre, hein. De toute façon ce n'est pas ça, mais je crois qu'il va beaucoup plus loin. Et il touche, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plafond de verre, mais il n'ose pas aller plus loin.
Donc, en termes de discographie, il y a une actualité actuellement ?
Ah, actuellement, une super actualité parce que nous allons sortir la semaine prochaine le CD autour de Bartok. Et dans ce CD, nous avons le concerto pour orchestre, que j'ai déjà entendu et c'est extrêmement bien, ça donne superment bien. Mais surtout, nous avons le concerto d'alto, que nous allons jouer justement la semaine prochaine avec Amia Igrosch, qui... excusez les peu, est quand même alto solo au Berliner Philharmoniker. Et donc, voilà, c'était un plaisir immense de l'avoir ici pendant l'enregistrement. Et c'est la dernière œuvre de Bartok, juste avant qu'il ne meure. D'ailleurs, elle n'est pas terminée, enfin pas par lui, c'est terminé par un de ses élèves. Et voilà, c'est une pièce assez courte, parce que c'est un concerto qui ne fait que 25 minutes, je pense. Mais magnifique. Et donc, sur ce CD, il y aura le concerto d'alto et le concerto pour orchestre.
J'ai pu en écouter quelques extraits hier. Hein?
Ah, oui, parce qu'ils viennent sortir sur les plateformes, Spotify et tout ça. Il n'est pas encore... Je crois qu'ici, la semaine prochaine, on aura quelques exemplaires qui viennent d'Alpha, le public pourra acheter. Mais c'est vraiment... Il vient de sortir. Donc, vous ne le trouverez pas encore partout, ou peut-être pas dans tous les discothèques là tout de suite.
Donc, signé Alexandre Bloch.
Oui, c'est son dernier CD avec l'orchestre, signé Alexandre Bloch, qui a fait un travail extraordinaire sur cette œuvre. C'est une œuvre qu'on a beaucoup jouée. On l'a enregistrée assez rapidement parce qu'on l'avait jouée beaucoup. Et on a eu la chance de la jouer à Salzbourg aussi. On était au festival avec cet orchestre, avec cette pièce. C'est toujours très complexe. Hein. On a toujours une logique d'un côté, une logique artistique, qui nous dit qu'il faut d'abord la jouer beaucoup et après l'enregistrer. Et après, vous avez la logique commerciale. Il faut l'enregistrer tout de suite. Et après, une fois qu'on sort, on la sort. Et ici, on a fait un peu les deux. Donc, on l'a beaucoup joué parce qu'il y a deux pièces sur le CD, hein, le concerto pour orchestre et le concerto pour alto. Donc, le concerto pour orchestre, on l'a beaucoup joué et après, on l'a enregistré. Et on a fait l'inverse pour le concerto de Bartok. On l'a enregistré et après on le joue. Donc voilà, on a fait un peu un compromis, disons, un compromis à la belge, comme on dit.
Alors parmi les compositeurs actuels hein, que vous allez présenter, on peut parler de George Benjamin qui est anglais.
George Benjamin est anglais. C'est un ami d'Alexandre Bloch. Il nous fait l'honneur, le plaisir d'être présent pendant 2 semaines au mois de janvier prochain, de janvier 2024. On va faire tout un focus autour de ce compositeur extraordinaire. C'est un compositeur qui s'est un peu dévoilé il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, quand pour la première fois à Aix, on a entendu ce Written on Skin. Je crois que c'était son deuxième opéra, mais c'est le premier qu'il a vraiment découvert. C'est un compositeur assez timide, qui n'aime pas tellement les lumières au-dessus de lui, donc, et qui commence à faire une petite carrière de chef d'orchestre. Et donc, on lui a proposé une carte blanche de diriger l'orchestre avec des œuvres qui sont proches de son esthétique. Donc, évidemment, il y aura une œuvre de lui, il y a le concerto pour orchestre qu'il a composé, et à côté de ça, il y aura La Mer, il adore Debussy. Il y aura Lontano de Ligeti et toutes des pièces qui lui parlent. Et la semaine suivante, ce sera le tour d'Alexandre Bloch de prendre la baguette et il va diriger Written on Skin, son premier opéra qui a un énorme succès à Aix-en-Provence. Et c'est en collaboration, coproduction avec Calais, le théâtre de Calais. Donc on la jouera aussi à Calais. Benjamin sera présent pendant la répétition. Il a envie d'être là. Il a choisi avec moi tout le casting. Donc c'était très très sympa de faire ça avec lui. Et en plus, il va chaque fois, et ici à Lille et à Calais, il va présenter le programme. Il n'aime pas tellement le faire, mais il va s'atteler à cet exercice. Il parle super bien français, hein, donc magnifiquement bien.
Donc l'opéra aussi, bien sûr, poursuivez votre partenariat avec l'Opéra de Lille hein, et puis vous intervenez dans des créations ou dans des productions.
Oui, on travaille régulièrement avec l'Opéra. L'année dernière, on a fait Falstaff et cette année-ci, c'est un peu le Graal. Hein. On va faire Tristan et Iseult de Wagner. Une œuvre un peu particulière dans la musique classique en général, mais encore dans l'opéra, encore très particulière. Et très bon chef, un chef d'opéra qui a déjà dirigé à Bayreuth le Ring et qui a fait aussi Tristan à Iseult à l'opéra à Bayreuth. Donc quelqu'un qui connaît bien ce répertoire, c'est Cornelius Meister. Oui, c'est un opéra... comme beaucoup de Wagner, hein, très importante, hein, plus de 4 heures de musique, donc avec 2 pauses évidemment, hein, c'est très vitaminé. Hein. Et pourtant, c'est très vitaminé, mais ça reste très sensuel, très transparent et très passionnel. Moi, je dis toujours, cette saison est un peu, met un peu la femme à l'honneur. Parce que nous avons Written on Skin, c'est une histoire d'une femme finalement, pas nécessairement une belle histoire, hein, mais quand même une femme qui se bat, qui de sa féminité, qui s'affirme en tant que femme et qui tombe amoureuse de quelqu'un parce que en fait son mari c'est un goujat et c'est un misogyne, qui la traite mal et qui la méprise et donc elle veut en tant que femme vivre sa féminité, sa sexualité et tout ça, donc c'est extraordinaire. Et ça, c'est Written on Skin. Mais après, vous avez Iseult. Mais Iseult aussi, elle veut aimer Tristan. Mais Wagner va plus loin. Wagner sait, ou pense savoir, que c'est seulement dans la mort qu'ils pourront tous les deux exaucer leur amour. Et d'ailleurs, ces mots « Liebestod », qui est un mot qui n'existe pas, hein, « mort, amour », ça n'existe pas, c'est un mot que lui... Mais c'est ça. Et c'est seulement à ces moments-là qu'ils sont heureux, quand ils sont morts. Et j'ai beaucoup réfléchi au départ, je me dis « mais il est fou, je ne sais pas ce qu'il a fumé », mais en fait, non. Mais en fait, vu la situation dans laquelle ils étaient, oui, c'est là qu'ils accomplissent le geste ultime. Et Tristan, c'est une œuvre où il y a cette cette image de cette d'Iseux et cette sensualité à fleur de peau, vous l'entendez du premier accord. D'ailleurs, on appelle souvent l'accord de Tristan, cette carte au début de l'œuvre, qui est un peu le leitmotiv de leur amour, hein, disons, de leur passion. Voilà, et je trouve ça impressionnant. Et alors, la troisième figure féminine de la saison, c'est Scheherazade. Parce que Scheherazade, avec, on fera donc les deux Scheherazades, celle de Ravel et celle de, évidemment, Korsakov, mais Scheherazade aussi, c'est une figure presque psychanalytique. Elle essaie de faire sortir du noir le calife, le prince, et donc elle lui raconte des histoires, mais pour lui faire passer la nuit, de le sortir en fait de la nuit. Enfin, c'est ça l'image. Toutes les nuits, elle le sort de sa nuit.
C'est une lumière dans la nuit.
Oui, c'est une lumière sur la nuit, mais surtout, grâce à ses voyages, finalement, il comprend. Et il comprend que sa démarche de tuer chaque fois toutes les femmes parce qu'il a été trahi une fois, c'est pas la bonne. C'est pas ça qu'il faut. Il faut autre, peut-être il faut changer le paradigme. Et il s'en rend compte. Ça lui a pris mille et une nuits, évidemment. Hein. Ça lui a pris un peu de temps. Mais quand même. Mais je trouve que ça aussi, Scheherazade, finalement, c'est aussi une femme du XXIe siècle. Mais comme, comme Iseux et comme notre protagoniste de Written on Skin, en fait, c'est très actuel, en fait.
Donc, Fabio Sinacori, vous avez des coups de cœur aussi que vous avez mentionnés là dans votre brochure. Peut-être qu'on peut en évoquer quelques-unes.
Alors, je ne sais pas lesquelles. On a déjà parlé, évidemment, de Written on Skin. Moi, j'aime beaucoup, évidemment, il y a un projet que nous avons au mois d'avril avec un très bon chef d'orchestre, un formidable violoncelliste. Le chef d'orchestre, c'est Urbanski, Christophe Urbanski, et le violoncelliste, c'est Nicolas Hallstedt. Urbanski, c'est un grand chef polonais, et je suis très honoré qu'il ait accepté de venir ici diriger l'orchestre. Il va diriger une œuvre d'un compositeur polonais, évidemment, il adore se mettre en avant. Après, il dirigera la 9e de Dvorak, on l'a dit tout à l'heure, un grand tube, Nouveau Monde, voilà. Mais après, il a choisi une œuvre toujours d'un compositeur polonais, c'est Lutosław Zelazki, un concerto pour violoncelle, qui est de plus en plus joué. À un certain moment, il était un peu dans le placard, mais maintenant, il est de plus en plus joué. Même dans les grands concours internationaux de violoncelle, on le met parmi les choix. Mais toujours, évidemment, les tubes, Dvorak, évidemment, Halli Haydn, Rococo et tout ça. Mais on met de plus en plus souvent, Shostakovich, mais on met de plus en plus souvent aussi ce concerto Lutosław Zelazki, assez particulier, extraordinaire aussi. Et c'est Nicolas Hallstedt qui va le jouer. Donc, pour moi, ça, c'est un coup de cœur, c'est certain. Alors, parmi les coups de cœur, j'imagine que j'ai mis le concert dans deux semaines avec Sibelius, probablement avec Marie-Ange Gouchy, très très bonne pianiste. J'aime bien, dans le temps, accompagner certains artistes, les accompagner, les inviter une fois, mais quand je sens que ça marche bien, de les inviter régulièrement, de les suivre. Et Marie-Ange a été le cas. La première fois qu'elle est venue, elle est venue pendant le Covid. Elle a fait un récital, on appelle LPF digital, elle a joué. Après, elle est revenue une ou deux fois. C'est magnifiquement bien passé. Elle fait une carrière extraordinaire maintenant, cette jeune femme. Et en fait, elle va jouer le 4e concerto de Beethoven, bientôt, au mois de novembre, début novembre, je pense. Et ce qui est, c'est l'histoire autour de l'histoire, c'est qu'en fait, j'étais avec elle il y a quelques semaines à Hambourg pour choisir un nouveau Steinway. Et c'est elle qui l'a choisi avec nous. Et elle va l'inaugurer justement à ce concert. Donc vous voyez, il y a tout un... c'est souvent, il faut raconter les histoires, je trouve. C'est important. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Parce que simplement dire oui, elle va venir, elle a déjà venu. Non, il y a autre chose. Et je trouve que c'est important. Ça montre aussi une confiance que nous avons dans l'artiste. Mais elle aussi, elle a dû se libérer pour venir. Elle venait de je ne sais pas où. Après, partait en Sardaigne pour d'autres concerts. Donc, elle a fait la démarche. Elle est restée avec nous pendant une journée. Et je lui suis très reconnaissant. J'espère qu'on a choisi un très bel instrument.
Voilà, donc, c'est vrai qu'un orchestre, c'est beaucoup de rencontres et des affinités parfois. Hein. En général, ça se passe bien.
Je parlerai en présence de mes avocats. Ça se passe toujours bien, ça c'est sûr. Enfin, de toute façon, il faut que ça se passe bien. Mais les musiciens en général, les artistes en général, c'est des personnalités sensibles, fragiles, avec des égos parfois plus ou moins grands, hein, plus ou moins encombrants. Mais ils ont besoin de ça. Parce que s'ils ne le sont pas, ils ne peuvent pas performer. Et parfois, il faut les gérer. Parfois, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Parfois, ils ont besoin d'être au centre de l'attention. C'est des vies difficiles. C'est des vies dans les trains, dans les avions, dans les hôtels, loin parfois des familles, pendant des semaines. Il faut faire attention à tout ça. Et après, il y en a qui sont plus ou moins, entre guillemets, fragiles, plus ou moins demanding. Voilà, ça, la semaine dernière, on a eu Alice Sarraut ici, un grand pianiste allemande, un amour. Elle a été gentille, elle a été formidable pianiste stratosphérique. Elle est chez DG depuis des années. Et la voir ici, c'était un plaisir. Un plaisir. Et je sais déjà que la semaine prochaine, avec Amia Groche, ça va être un gentil, c'est un sympa, un musicien sincère. Et après la semaine, on aura aussi Victor Julien Laferrière, un violoncelliste, moi, d'une générosité extraordinaire, qui fait une carrière à côté avec Consuelo, avec un ensemble d'un petit orchestre qui commence à diriger. Il fait ça super bien, en plus. Donc, vous voyez, c'est aussi mon rôle de choisir ces artistes. Et je les choisis aussi par rapport, évidemment, aussi un peu avec ma sensibilité. Mais parfois, j'ai choisi des artistes parce que je me dis, voilà, il est extraordinaire, ça va être une semaine difficile. Je sais déjà, je vais passer une semaine difficile avec lui ou avec elle, mais c'est pas grave. Voilà, parfois c'est plus ou moins difficile, mais en général, ça se termine toujours bien. Ils sont toujours contents. On a un public extraordinaire ici à Lille qui est très chaleureux. Ils le sentent, ça leur fait du bien. Et on a la chance d'avoir un public très hétérogène. Vous avez tous les âges. C'est pas comme ça partout, vous savez. Je connais quand même beaucoup de salles qui se prennent pour je ne sais pas quoi. Et malheureusement, la moyenne d'âge est gériatrique, disons. Et ici, pas du tout. Et très, très mix en plus. Et ça, ils le sentent, les musiciens. Il faut penser que les musiciens qui sont sur scène, pour pouvoir performer à 100%, pour donner 100%, ils ont besoin d'un échange d'énergie avec le public. Alors, il y a les pros, évidemment, qui jouent toutes les notes, toutes les dynamiques et tout, mais ici, ils sentent qu'ils sont portés. Ils sentent l'énergie qui vient du public, et ils me le disent.
Alors, évidemment, cette sensibilité nécessaire aux musiciens, elle est parfois synonyme de fragilité, et là, le public vient les conforter dans leur capacité à aller au bout de leurs rêves.
Certainement, vous avez vraiment très bien dit, c'est vraiment ça. Ils viennent les conforter et ils viennent leur donner cette énergie en plus et cette sensibilité au moment même et vous les sentez dans la salle. Parfois, et surtout dans les moments lents, dans les pianos, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est des moments un peu de magique. Et c'est des moments un peu... Malheureusement, la musique, c'est l'art éphémère par excellence. Hein. C'est passé, c'est passé. On ne sait pas l'enregistrer. Et je ne me rappelle pas quel grand chef disait « Il faut surtout bien écouter les silences. »
Et voilà. Ce silence, on peut l'écouter. Quand le public est complètement concentré, il ne tousse pas, il ne fait pas de bruit. Et c'est là qu'on ressent la magie de ce qui se passe entre la scène et la salle.
Exact. Et c'est un moment de grâce. C'est un moment de grâce qu'il faut garder fort dans soi et qu'il ne faut surtout pas oublier. Et que c'est ces moments-là qui nous font tous avancer, qui nous font... On travaille pour ça.
Voilà, donc des moments, des instants, parfois courts, parfois un peu plus longs, à vivre ici, dans ce magnifique palais de la musique.
Oui, à vivre surtout intensement. C'est des moments qu'on n'oublie pas. C'est des moments qui nous touchent profondément. On dit toujours, oui, la musique, des émotions. Oui, mais parfois, ça bouleverse et on garde ça très profond dans nous pendant très longtemps. Et ça m'arrive encore de me souvenir des moments de frissons que j'ai eu à un concert X, mais c'est encore maintenant. Parce que ce jour-là, ce moment-là, c'était bouleversant. Et c'est ça, en fait, finalement, ce qu'on essaie de faire ici. C'est ça.